Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes donc entrés dans le mois de novembre. Et ce mois de novembre, vous le savez, d'ailleurs, la nature nous le rappelle un petit peu. Les feuilles tombent des arbres, le temps est un petit peu triste, froid, pluvieux quelquefois. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Enfin, une certaine tristesse dans la nature qui aussi devrait toucher notre cœur, car ce mois de novembre, eh bien, nous devons penser tout particulièrement aux membres de l'Église souffrante. Vous savez que l'Église, une, est constituée de trois parties. L'Église souffrante, donc celle du purgatoire, l'Église triomphante du ciel, nous l'avons célébrée le jour de la Toussaint, et l'Église militante, eh bien, ce sont tous les baptisés. Plus précisément, tous les baptisés qui appartiennent à l'Église catholique, parce qu'il y a des baptisés en dehors de l'Église catholique. Les protestants, par exemple, n'appartiennent pas au corps mystique. Ceux qui sont dans le schisme oriental, il y en a qui sont séparés depuis les tout premiers siècles, hein, des hérétiques, des nestoriens, et que sais-je, bon. Et puis la grande vague après Michel Cérulaire, là, on va dire au XIIe siècle, bon, alors là, toute une partie de l'Est de l'Europe, hein, qui a basculé dans le schisme, ça commence en valide. La présence réelle est chez eux. Dans leur tabernacle, le Seigneur est prisonnier. Prisonnier. Et cependant, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église catholique. Donc le corps mystique, c'est uniquement l'Église fondée par le Christ et l'Église catholique romaine. On pourrait aujourd'hui, si vous voulez, pour ceux qui veulent plus de précision, traditionnelle, c'est-à-dire celle qui a gardé les sacrements, celle qui a gardé la foi. C'est évident que l'Église catholique romaine, ce n'est pas celle de M. François. On n'a pas beaucoup de choses en commun. Alors, l'Église souffrante ne doit pas nous laisser indifférents, car si nous avons la grâce de bien finir sur cette terre, nous passerons, je pense, tous par le purgatoire. Quand on lit des vies de saints, des récits d'apparition des âmes du purgatoire, où il nous est dit que des gens mais pieux, des prêtres, des religieux, des religieuses et des personnes pieuses ont dû faire du purgatoire pour des choses qui nous sembleraient vraiment des bagatelles, des choses ridicules. Dans notre vie, ben malheureusement, il n'y a pas que des bagatelles. Il y a des choses qui sont plus ou moins graves qu'on a faites. Et il faudra bien les réparer un jour. Donc, ce lieu de souffrance qu'est le purgatoire nous appelle au secours, nous appelle à l'aide. Particulièrement à notre époque, où c'est la grande apostasie, où ceux qui consciemment ou inconsciemment appartiennent à cette église moderniste, qui n'est pas l'église catholique, entendent un autre son de cloche que le son de cloche traditionnel. C'est-à-dire que la mort, bon, quasiment, c'est l'entrée au ciel. Si vous avez assisté quelquefois par obligation, on n'y va pas par plaisir, mais par obligation des funérailles dans des églises modernes, eh bien, on souffre d'abord, hein. De cette ambiance qui n'est pas catholique, et la plupart du temps, l'homélie n'est pas traditionnelle, évidemment. Et le défunt, ben voilà, il est quasiment canonisé, il est quasiment au ciel. Mais la réalité est très différente. La réalité est très différente. Parce que si sur cette terre, on parle beaucoup de justice, ministre de la justice, des juges, ça ne manque pas. Certains font leur travail, d'autres, sans doute moins. Donc tous ces magistrats, tente de faire régner la justice. Et pourtant, sur la terre, il n'y a pas la justice. Et on est quelquefois les premiers à maltraiter la justice. Il ne faut pas l'oublier. Il ne s'agit pas simplement de la question de voler à quelqu'un. Peut-être vous n'avez jamais volé quelque chose à quelqu'un, mais peut-être vous avez volé la réputation à quelqu'un. En parlant, en critiquant, en calomniant, que sais-je. Bon. C'est un tort qui est fait à autrui. Donc c'est une question qui touche la justice. Eh bien, les âmes du purgatoire attendent de nous le suffrage de nos prières, puisqu'aujourd'hui, quasiment tout le monde les a oubliées. Parce que ça dérange, vous comprenez. Dans le monde moderne, c'est le plaisir, c'est la jouissance, et si on vient parler à nos contemporains de l'enfer, du péché mortel, de la réparation, tout ça, c'est pas très plaisant. Donc comme on ne veut entendre que des choses plaisantes, on aime être caressé dans le sens du poil, eh bien, le clergé qui n'est plus catholique aujourd'hui, eh bien, marche dans cette combine-là. Mais c'est pour le plus grand malheur des membres de l'Église militante qui vont se perdre, qui ont toutes les chances de se perdre, et aussi pour le plus grand dommage de ceux qui sont dans l'Église souffrante, parce que il n'y a plus toutes les prières qu'il y avait autrefois. Autrefois, dans le cours de l'année même, alors je ne vous parle pas du mois de novembre, hein, mais dans le cours de l'année, toujours il y avait des gens au cimetière. Toujours. Des veuves ou des enfants qui avaient perdu leurs parents, voilà, ils allaient pour prier véritablement. Ce n'était pas une question de voir les pots de fleurs, les pots de chrysanthèmes. Hein. Non, non, c'était pour prier. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de monde à la Toussaint dans les cimetières. Mais c'est simplement pour les chrysanthèmes. Pas beaucoup pour la prière. Et les grandes perdantes sont les âmes du purgatoire. Alors nous autres, nous devons nous mobiliser. Je vous le dis parce que le bon Dieu est juste. Et si nous avons oublié les âmes du purgatoire durant notre passage sur la terre, eh bien il est bien à craindre que nous aussi nous soyons oubliés par ceux qui viendront après nous. Alors l'Église met à notre disposition toutes sortes de prières, des prières ou des actions indulgenciées, comme la visite des cimetières. Vous aviez le 2 novembre, la visite des églises, en récitant les cipater, Ave et Gloria. Mais de toute façon, beaucoup de prières sont prévues par l'Église pour soulager les âmes du purgatoire. Évidemment, le De Profundis, si vous ne le connaissez pas par cœur, vous l'avez dans votre missel. Le psaume Miserere, qui est plus long, on le récite très souvent la semaine sainte. Bon, ben, le psaume Miserere aussi est une source de soulagement pour les âmes du purgatoire. Ces âmes du purgatoire ne sont pas toujours restées silencieuses. Dans l'ordre établi par le bon Dieu, normalement, il n'y a pas de contact entre les trois églises, entre l'église du ciel, l'église du purgatoire et nous. Mais le bon Dieu peut déroger à la règle. Il le fait par certains miracles. Habituellement, vous voyez l'hostie blanche et ne vous voyez pas l'hostie de laquelle s'écoule du sang. Et pourtant, vous le savez, la foi vous le dit, c'est la chair de notre Seigneur, la chair sanglante de notre Seigneur. Bien, pour raviver la foi des fidèles, le Seigneur a fait, il y en a de nombreux, les rationalistes, les incrédules, athées, ce que vous voulez, ne veulent pas se pencher sur le problème parce que ça les dérange. Mais s'ils étaient honnêtes et qu'ils faisaient des recherches sérieuses, ils seraient sûrement ébranlés dans leur athéisme parce que les miracles eucharistiques sont nombreux. Les apparitions des âmes, le miracle eucharistique, évidemment, c'est pour nous, l'Église militante, hein, pour secourir les âmes du purgatoire, eh bien, il y a eu aussi un certain nombre d'apparitions des âmes du purgatoire. Et ceux qui ont été témoins de ces apparitions ont été bouleversés, évidemment. ne parle pas des apparitions de d'âmes d'enfer, revenus dire, est-il de prier pour nous, nous sommes en enfer, je suis en enfer pour tel ou tel péché, alors que tout le monde croyait que... Je pense au jeune homme de Saint-Andonin, là, on raconte toujours cette histoire, mais qui est réelle dans les retraites. Enfin bon, on n'est pas obligé de la raconter, on la raconte souvent. Hein, ce jeune homme que tout le monde prenait pour un saint, parce que il a fait beaucoup de pénitents, il avait fait des gros péchés, et il avait honte d'avouer ça en confession. Il y a des péchés en confession, bon. C'est jamais agréable, mais enfin, ça passe quand même. Il y en a d'autres, c'est difficile de les sortir, hein, vous savez sur quel sujet. Bon. Alors, lui, de quoi s'agissait-il? On ne nous l'a pas dit, évidemment, secret de confession, mais enfin, on peut se douter un petit peu. Et comme sa conscience le travaillait, eh bien, il faisait des pénitences extraordinaires. Et c'était pas du, comme dit l'autre, du chiquet, hein, c'était sincère. Il voulait se châtier pour ce qu'il avait fait. Et sans vouloir nécessairement que les autres se rendent compte, ben, les gens se rendaient bien compte. C'est évident que si vous jeûnez au pain sec et à l'eau pendant des semaines, ben, vous n'allez pas peser 180 kilos. Hein. Bon, alors, il devait avoir une mine, vous comprenez, il était amaigri, tout ça. Alors, vous vous dites, il est tout le temps à l'église, et il fait des pénitences. Ben, si celui-là ne va pas au paradis, si celui-là va pas au paradis. Et alors, quand il entendait ça l'agaçait, parce que, au fond, il se disait, mais ils ne savent pas ma vie. Hein. Ils s'imaginent que je suis un saint, et je ne suis pas un saint, loin de là. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas confessé sa faute. Alors, finalement, il frappe à la porte d'un monastère. Et alors, le monastère, on le reconnaît. Oh, c'est le saint qui frappe à la porte du monastère. Les portes s'ouvrent bien vite, hein. Accueillir un saint comme possible dans un monastère, voilà. Et alors lui qui pensait que là il allait encore faire plus pénitence, qu'il allait pouvoir vraiment faire sa confession, ben, la honte, évidemment, quand tout le monde vous prend pour un saint, et que vous dites, mais non, vous n'y êtes pas du tout, hein. J'ai besoin d'un confesseur, parce que si vous saviez ce que j'ai fait, c'est abominable. Il était tenu par le démon, à la gorge, là. Et bon, j'abrège un petit peu l'histoire, mais toujours est-il, eh bien, que par la honte, il va mourir dans cet état. Et quand il est mort, ben, évidemment, tout le monde, tout le monastère, enfin, les gens des alentours, ça accourait au monastère avec des chapelets, avec des bouts de tissu pour le faire toucher à son corps, parce que tout le monde croyait que c'était un très grand saint qui était mort, et qu'il était monté comme une flèche au ciel. Seulement, il n'était pas monté comme une flèche au ciel. Il était tombé comme un gros caillou en enfer. Et il va y avoir, justement, le bon Dieu va permettre, il va y avoir une apparition de ce malheureux pour dire c'est pas la peine de faire de cérémonie de funérailles pour moi, de prier pour moi, car je suis damné. Voilà. Le bon Dieu, quelquefois, permet des choses comme ça pour nous réveiller de notre train-train. Voilà, on se dit, on n'est pas plus mauvais que les autres, et on ira bien au ciel comme ça, sans trop se fatiguer. Et à propos du purgatoire, il y avait, aujourd'hui il a été bouclé, il était fermé. Est-ce que les objets ont été détruits? J'espère que non. Il y avait à Rome le musée des âmes du purgatoire. C'était des meubles, des objets qui avaient été touchés par des âmes du purgatoire, qui avaient eu la permission de revenir parler à des gens comme nous, pour leur demander des prières, pour leur dire que le purgatoire, c'est un lieu de souffrance. Et je vous assure que c'était très amusant. Moi, je ne l'ai pas visité, mais ceux qui m'ont rapporté la chose, c'était très, très impressionnant. Donc, il ne faut pas négliger cette dévotion pour les âmes du purgatoire. Les auteurs disent que c'est d'abord une marque de prédestination, comme la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, ceux qui ont une dévotion aux âmes du purgatoire. Et c'est un acte de charité encore plus grand. Quand vous avez un mendiant, vous le voyez, maigre comme tout, il pleure, il tremble, il fait froid, il vous demande un petit bout de pain. Bon, faut vraiment avoir un cœur de pierre pour détourner le visage et puis dire, bon, on m'embête, lui. Non, non. Si on a du cœur, quand même, on dit, on va pas penser à Saint-Martin. Hein. Comment Saint-Martin a coupé son manteau pour donner à un malheureux. Le malheureux, c'était le Seigneur. On est touché parce qu'on voit quelqu'un dans la misère. Je vous dis, quand on n'a pas un cœur de pierre. Mais secourir des âmes, on ne sait pas où elles sont, est-ce qu'elles sont seulement au purgatoire, elles sont peut-être au ciel, on ne sait pas du tout. Hein. Ça demande une plus grande charité, une plus grande force hein, d'action. Alors, oui, ceux qui sont des dévots des âmes du purgatoire, eh bien, acquièrent un plus grand degré de gloire au ciel. Et pour terminer, je voudrais vous rapporter un fait qui va peut-être, dans un premier temps, vous étonner, mais en réflexion faite, vous allez comprendre. Quelquefois, on se dit, mais oui, priez pour le grand-père, par exemple. Ah, oui, le grand-père, mais est-ce qu'il est au ciel? On ne sait pas, hein. Quand même, il n'était pas commode, le vieux, hein. Alors, bon, il s'est confessé, mais est-ce que vraiment il a tout dit, en confession? Est-ce qu'il a reçu les derniers sacrements bien comme il faut, hein. Bon, voilà. Donc, on pourrait se dire, on est dans le brouillard, on ne sait pas. Et puis, quelquefois, aussi, pour des personnes, on se dit, ben, que voulez-vous? Ils ont vécu comme des païens, ils sont morts comme des païens, quoi bon prier pour eux? Il y a autre chose à faire, il y a sûrement d'autres personnes pour qui prier. Non, il faut pas réagir comme ça. Et même, voyez-vous, quand des personnes manifestement, il y a toutes les raisons de penser que, humainement parlant, que ces personnes-là ben, ne peuvent pas aller au ciel, parce que vraiment, c'était horrible leur vie, et se sont mal comportés, bon. Il ne faut pas dire, non, alors je ne prie pas. À moins que vous ayez une révélation. Si le Seigneur vient en personne, ou si la personne, apparition, dit, c'est pas la peine de prier pour moi, je suis en enfer. Bon, alors d'accord. Mais autrement, eh bien, vous pouvez faire comme ce religieux, qui est décédé aujourd'hui, un éminent théologien, hein, et qui priait, il a vécu après le concile, là. Il est décédé maintenant. Et alors, il priait, je vous dis qu'au départ, vous allez être surpris, il priait pour la conversion de Saint-Augustin. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Saint-Augustin, il est mort au premier siècle. Oui, mais Dieu est en dehors du temps. Et Dieu, il y a 10 siècles, il y a 20 siècles, connaissait déjà les pénitences, les prières que vous pouvez faire aujourd'hui. Ce qui veut dire que si vous avez quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, qui est mort dans de mauvaises conditions, les prières que vous faites maintenant pour lui, bien sûr que ça ne va pas changer à partir de maintenant, mais le bon Dieu peut très bien utiliser les prières que vous faites maintenant pour avant, c'est-à-dire avoir touché son cœur avant qu'il rende son dernier soupir. Et ça, c'est réconfortant. Voyez-vous, quelqu'un vraiment de méchant qui est mort, tout le monde dit, oh ben, oui, celui-là. Mais ne réagissez pas comme les gens qui réagissent au premier niveau et se dire non. La prière, d'abord, n'est jamais inutile. Si le bon Dieu ne l'applique pas à telle âme parce que, de fait, elle est damnée, eh bien, le bon Dieu peut très bien l'utiliser avant la mort de la personne pour toucher son cœur, qui est une étincelle de repentir, si vous voulez, qui change les choses. Donc ayons un cœur de prier pour nos défunts. Et soyons bien assurés que ces âmes ne sont pas ingrates. Nous sommes facilement ingrats sur terre. Les gens nous font du bien, les gens nous rendent service, et puis un jour, ils nous font une remarque, et qu'on a bien mérité d'ailleurs, hein, ou qu'on n'a pas mérité, peu importe, hop, alors là, on est vexé parce qu'il y a de l'orgueil, on est vexé, et on oublie tout le bien que cette personne a pu nous faire. mais on met le projecteur, n'est-ce pas, sur cette infamie, sur ces propos déshonorants qui nous sont dits. On oublie tout le reste. On est ingrat. On devrait, même si quelqu'un devient un jour apparemment ennemi, hein, eh bien, se souvenir du bien qu'il nous a fait. Ben, les âmes du purgatoire ne fonctionnent pas comme ça. Les âmes du purgatoire, pour les bienfaits que nous leur aurons procurés par les prières, les pénitences, les indulgences, feront, je dirais, l'impossible, c'est-à-dire tout ce qu'elles pourront, elles intercéderont pour éviter que nous tombions en enfer. Donc c'est important d'avoir des avocats parmi les âmes du purgatoire qui, un jour, seront dans la gloire du ciel. Eh bien, demandons-leur qu'elles nous motivent pendant ce mois de novembre et qu'elles suscitent dans nos cœurs cette charité pour elles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.